Chapitre 12. Conway Jefferson s'agita dans son sommeil et étira ses bras longs et puissants dans lesquels semblait s'être concentrée toute la force de son corps depuis son accident. À travers les rideaux, la lumière du matin filtrait doucement. Conway Jefferson se sourit à lui-même. Après une bonne nuit de repos, il s'éveillait toujours ainsi, heureux, frais et dispos, sa vitalité régénérée. Un nouveau jour. Il resta une minute ainsi. Puis il pressa le bouton de sonnette, disposé spécialement à portée de sa main. Alors, soudain, le souvenir déferla sur lui. Au moment où Edwards entra de son pas alerte et feutré, un geignement s'échappait des lèvres de son maître. Edwards, la main sur les rideaux, interrompit son geste.
« Vous n'êtes pas souffrant, monsieur. »
« Non. » répondit Conway Jefferson sur un ton bourru. « Allez, ouvrez !» La lumière vive du jour inonda la pièce. Edwards, qui avait compris, ne se retourna pas vers le lit. Le visage sombre, Conway Jefferson se souvenait, pensait. Devant ses yeux se profilait le minois insipide de Ruby. Seulement l'épithète « insipide » ne lui vint pas à l'esprit. La veille au soir, il aurait dit « innocent », une enfant naïve, innocente. Et maintenant ? Une grande lassitude s'empara de Conway Jefferson. Il ferma les yeux. « Margaret », murmura-t-il en un souffle, le prénom de son épouse décédée.
« J'aime beaucoup votre amie », déclara Adélaïde Jefferson à Madame Bantry. Les deux femmes bavardaient sur la terrasse.
« Jane Marple est une femme remarquable », renchérit Dolly.
« Adorable aussi », ajouta Addy avec un sourire.
« Certains lui trouvent la langue trop acérée », dit Madame Bantry. « Mais ce n'est pas vraiment le cas. »
Elle a sans doute une piètre opinion de la nature humaine.
On peut formuler ça comme ça.
Ça fait du bien après avoir eu les oreilles rebattues du discours inverse, dit Adélaïde Jefferson. Madame Bantry lui adressa un regard intrigué.
Addy s'expliqua.
Cette adulation, cette idéalisation d'une créature qui ne le méritait pas.
Vous parlez de Rubikin.
Addy hocha la tête.
Je ne voudrais pas être trop méchante. Elle ne pensait pas à mal. Pauvre gosse. Il lui fallait se battre pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce n'était pas une mauvaise fille. Ordinaire, un peu bébête, pas désagréable, mais farouchement intéressée. Je ne crois pas qu'elle ait prémédité ou comploté quoi que ce soit. Simplement, elle a sauté sur l'occasion. Elle savait comment s'y prendre pour attendrir un vieil homme solitaire.
Conway Jefferson devait vraiment se sentir seul, j'imagine.
Fit pensivement Madame Bantry. Addy parut quelque peu mal à l'aise.
Cet été, oui.
Elle marqua un temps, puis reprit brusquement.
Mark prétend que tout est ma faute. Peut-être a-t-il raison, je ne sais pas.
Elle resta un moment silencieuse, puis, mue par le désir de se confier, poursuivit avec difficulté, presque à contre-cœur.
J'ai eu une vie vraiment étrange. Mike Carmody, mon premier mari, est décédé si peu de temps après notre mariage que j'en ai été anéantie. Peter, comme vous le savez, est né après sa mort. Frank Jefferson était le meilleur ami de Mike. Alors, je suis allée le voir souvent, en tant que parrain de Peter également. Mike avait tenu à ce qu'il le soit. J'ai commencé à éprouver beaucoup de tendresse pour lui et infiniment de compassion aussi.
« De compassion ?» demanda Madame Bantry étonnée.
« Oui, ça peut paraître bizarre. Frank avait toujours eu ce qu'il désirait. Ses parents ne lui avaient jamais rien refusé. Et pourtant, comment dire ? La personnalité de M. Jefferson, père, est écrasante. Ceux qui l'entourent doivent renoncer à la leur. Franck en souffrait. Au début de notre mariage, c'était un homme merveilleusement heureux. Monsieur Jefferson s'était montré généreux. Il avait fait don à Franck d'une grosse somme d'argent, en disant qu'il voulait que ses enfants n'aient pas à attendre sa mort pour connaître l'indépendance. Générosité certes très noble, mais beaucoup trop soudaine. C'est petit à petit qu'il aurait dû amener son fils à cette indépendance. Tout cela est monté à la tête de Franck. Il voulait se montrer aussi brillant que son père, aussi compétent que lui dans la finance et les affaires, aussi avisé et clairvoyant. Mais tel n'était pas le cas, bien sûr. Il ne faisait pas à proprement parler de spéculation, mais il investissait dans de mauvaises valeurs, au mauvais moment. C'est affolant, voyez-vous, de voir comment l'argent file vite quand on ne sait pas le gérer. Plus Franck plongeait, plus il s'obstinait à vouloir se refaire. C'est ainsi que les choses sont allées de mal en pis.
« Mais enfin, fit Madame Bantry, est-ce que Conway n'aurait pas pu le conseiller ?»
Il ne voulait pas qu'on le conseille. Il tenait absolument à réussir par ses propres moyens. C'est pourquoi nous n'avons jamais mis Monsieur Jefferson au courant. Lorsque Franck est mort, il ne restait presque plus rien. Juste une minuscule rente pour moi. Et je n'ai rien dit à son père non plus. Voyez-vous,
elle se détourna brusquement.
J'aurais eu l'impression de trahir Franck. Et Franck aurait détesté ça. Monsieur Jefferson est resté souffrant pendant longtemps. Quand il a commencé à aller mieux, il a cru que j'étais une veuve riche. Je ne l'ai jamais détrompé. J'y ai mis un point d'honneur. Il me sait regardante, mais il approuve. Il s'imagine que je suis du genre économe. Bien entendu, Peter et moi avons presque tout le temps habité sous son toit depuis lors, et c'est lui qui pourvoit à nos dépenses quotidiennes. Je n'ai donc jamais eu de soucis de ce côté-là. Elle s'interrompit et ajouta lentement « Nous avons donc vécu toutes ces années comme en famille. À ceci près, voyez-vous, ou peut-être ne voyez-vous pas, qu'il ne m'a jamais considérée comme la veuve de Franck, mais toujours comme sa femme. »
Madame Bantry saisit la nuance.
« Vous voulez dire par là qu'il n'a jamais accepté leur mort ?»« Oui. Il a été admirable, bien sûr, mais il a surmonté sa tragédie personnelle en refusant d'admettre la réalité. Marc est le mari de Rosamund et je suis la femme de Franck. Ainsi, bien que Franck et Rosamund ne soient plus là, ils continuent d'exister pour lui. Magnifique exemple de foi salvatrice,
fit doucement remarquer Madame Bantry.
Je sais. Nous avons donc vécu ainsi, année après année. Et puis soudain, cet été, quelque chose a craqué en moi. Je me suis rebellée. C'est terrible à dire, mais je ne voulais plus penser à Franck. Tout cela, mon amour pour lui, notre complicité, mon chagrin quand il est mort, appartenaient désormais au passé. C'est quelque chose qui avait été et qui n'était plus. Ce que je ressentais est très difficile à décrire, comme un désir d'effacer l'ardoise et de repartir de zéro. Je voulais être moi, Adi, encore relativement jeune et forte, capable de m'amuser, de nager, de danser. Je voulais être une personne à part entière. Même Hugo, vous connaissez Hugo MacLean, c'est un amour. Il veut m'épouser, mais moi, bien sûr, je n'y avais jamais réellement songé. Eh bien, cet été, oui, j'ai commencé à y songer. Pas sérieusement, juste comme ça, dans le vague.
Elle s'interrompit et secoua la tête.
Alors, je suppose que c'est vrai. Je négligeais Jeff. Bon, pas réellement, mais mon esprit et mes pensées étaient tournés ailleurs. Quand j'ai vu que Ruby arrivait à le distraire, j'ai été plutôt contente. Ça me laissait davantage de liberté pour vivre ma vie. Je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé qu'il s'enticherait d'elle à ce point. Et après, lorsque vous vous en êtes aperçu, j'ai été abasourdi. Littéralement, abasourdi. Furieuse aussi, je dois l'avouer. Je l'aurais été comme vous. C'est qu'il y avait Peter, voyez-vous. Et tout son avenir dépend de Jeff. Jeff, qui le considérait pratiquement comme son petit-fils, à ce que je croyais du moins. Mais il ne l'était pas, bien sûr. Il n'avait aucun lien de parenté, alors penser qu'il allait être déshérité. Ses mains fermes, bien dessinées, tremblèrent légèrement sur ses genoux. Parce que c'est bien ce qui semblait s'annoncer. Tout ça pour une dinde cupide et vulgaire. Oh, je lui aurais volontiers tordu le cou. Elle s'arrêta, aussitôt horrifiée. Ses beaux yeux noisettes vacillèrent en croisant ceux de Madame Bantry.
« Mon Dieu !»
gémit-elle.
« C'est affreux de dire ça !»
Hugo MacLean, qui s'était approché doucement derrière les deux femmes, demanda
« Qu'est-ce qu'il est affreux de dire ?»«
Asseyez-vous, Hugo. Vous connaissez Madame Bantry, n'est-ce pas ?»
MacLean, qui avait déjà salué Dolly, insista.
Qu'est-ce qu'il est affreux de dire ?
Que j'aurais volontiers tordu le cou de Rubikine.
Hugo resta pensif un instant, puis...
En effet, si j'étais vous, je ne dirais pas des choses pareilles. Elles pourraient être mal interprétées.
Il posa sur la jeune femme un long regard grave.
Faites très attention, a dit.
Sa voix sonnait comme une mise en garde. Quelques minutes plus tard, lorsque Miss Marple sortit de l'hôtel et vint rejoindre Madame Bantry, Hugo MacLean et Adélaïde Jefferson descendaient ensemble le chemin qui menait à la mer.
« Il est au petit soin pour elle, » fit remarquer Miss Marple en s'asseyant.
« Ça fait des années qu'il l'est.
Il y a des obstinés.
Je sais.
Comme le Major Bury. »
Il a tourné autour d'une veuve anglo-indienne pendant près de 10 ans. Il était la risée des amis de la dame. Elle a fini par céder. Manque de chance, 10 jours avant le mariage, elle a filé avec le chauffeur. Une femme très bien pourtant, et d'ordinaire équilibrée.
Les gens ont parfois des moments de folie,
acquiesça Madame Bantry.
Je regrette que vous n'ayez pas été là un instant plus tôt, Jane.
Addy Jefferson me racontait son histoire, comment son mari avait englouti tout son argent, mais qu'il n'en avait jamais parlé à Monsieur Jefferson, et puis que cet été, elle avait commencé à voir les choses autrement.
Miss Marple hocha la tête d'un air entendu.
C'était inévitable. Elle a dû se rebeller contre cette obligation de vivre dans le passé.
Car enfin, il y a un temps pour tout. On ne peut pas rester indéfiniment terré chez soi avec les volets clos. Madame Jefferson a sans doute voulu les ouvrir et jeter son voile de veuve aux orties, que son beau-père n'a bien évidemment pas apprécié. Il s'est senti laissé pour compte sans jamais, j'en suis convaincue, en comprendre la raison.
En tout état de cause, il ne pouvait guère s'en accommoder. Et comme le vieux Badger, lorsque sa femme s'est adonnée au spiritisme, le fruit était mûr pour ce qui s'est passé. N'importe quel tendron pas trop vilain à regarder et disposé à lui prêter gentiment l'oreille aurait fait l'affaire.
« Pensez-vous, dit Madame Bantry, que la cousine Josie ait pu la faire venir exprès pour ça et qu'il s'agisse en quelque sorte d'un complot familial ?»
Miss Marple secoua la tête.
« Non, pas du tout. Je ne crois pas que Josie ait le pouvoir de spéculer sur les réactions d'autrui. Ce n'est manifestement pas son domaine. Vive, maligne, elle est cependant de ces gens dont l'intelligence ne dépasse pas le plan pratique, qui sont incapables de prévoir l'avenir et se laissent en général surprendre par lui.
« Il semble avoir surpris tout le monde, » dit Madame Bantry. « Même Addy,
Et Marc Gascal aussi, apparemment.
Miss Marple sourit.
Oh, lui, il avait d'autres chats à fouetter. C'est un coq de village, à l'œil égrillard. Pas un homme à jouer éternellement les veufs et pleurer, quel qu'ait pu être son attachement pour sa femme. J'imagine qu'ils ont dû, Adélaïde et lui, secouer plus d'une fois le joug du perpétuel souvenir imposé par le vieux monsieur Jefferson. Seulement, donner des coups de canif au contrat, ajouta Miss Marple caustique, c'est évidemment beaucoup plus facile pour les messieurs.
À ce moment précis, Marc, en grande conversation avec Sir Henry Clisring, était en train de confirmer ce jugement porté sur lui-même. Avec son franc-parler caractéristique, il était allé droit au fait.
« Je viens de me rendre compte que pour la police, je suis le suspect numéro un. Ils ont mis le nez sur mes difficultés financières. Je n'ai plus un rond, vous savez. Ou peu s'en faut. Si ce cher vieux Jeff casse sa pipe comme prévu dans un mois ou deux, et si Adi et moi, nous partageons la galette comme prévu, tout ira bien. Parce qu'en fait, j'ai des dettes impressionnantes. Si je plonge, ce sera un sacré bouillon. Si au contraire, j'arrive à tenir jusque-là, alors je referai surface et je serai un homme riche. Vous êtes joueur, Marc. Je l'ai toujours été. Tout risqué, voilà ma devise. Oui, ça m'arrange bien que quelqu'un ait étranglé cette pauvre gamine. Mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas un étrangleur. Je ne crois pas que j'arriverai jamais à tuer quelqu'un. Je suis un brave type. Allez donc faire comprendre un truc pareil à la police. Pour eux, je dois être le suspect idéal, tombé du ciel. J'avais un mobile, j'étais sur place, et je ne m'embarrasse pas de grands principes moraux. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas être déjà en tôle. Ce super intendant m'a dans le collimateur. Vous avez une chose très utile. Un alibi. Il n'y a pas plus contestable en ce bas monde qu'un alibi. D'ailleurs, les innocents n'ont jamais d'alibi. En plus, tout dépend de l'heure de la mort. De détails de ce genre. Et vous pouvez être sûr que si trois médecins disent qu'elle a été tuée à minuit, il s'en trouvera au moins six pour jurer leur grand Dieu que c'était à 5 heures du matin. Alors, mon alibi là-dedans. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à en plaisanter.
Le comble du mauvais goût, non?
Répliqua joyeusement Marc Gascoigne. En fait, j'ai la frousse. Avec un meurtre, il y a de quoi. Et n'allez pas croire que je ne suis pas navré pour le vieux Jeff. Au contraire. Même si le choc a été rude, ça vaut mieux que s'il l'avait démasqué.
Comment cela, démasqué?
Marc fit un clin d'œil. Où croyez-vous qu'elle a filé hier soir? Je suis prêt à parier qu'elle allait voir un homme.
Jeff n'aurait pas aimé ça.
Il n'aurait pas aimé ça du tout. S'il s'était aperçu qu'elle le roulait dans la farine et qu'elle n'était pas la petite poupée innocente qu'elle paraissait, mon beau-père est un homme étrange. Il sait bien se maîtriser, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, attention!
Sir Henry le considéra avec curiosité. Vous l'aimez bien ou pas du tout?
Je l'aime beaucoup! Et en même temps, je lui en veux. Je vais essayer de m'expliquer. Conway Jefferson adore dominer son monde. C'est un despote. Éclairé, certes, bienveillant, généreux, affectueux, mais c'est lui qui donne le la et qui mène la danse.
Marc Gascoigne marqua un temps, puis...
J'aimais ma femme. Je n'éprouverai jamais les mêmes sentiments pour une autre. Rosamond était un rayon de soleil, un éclat de rire, un bouquet de fleurs. Quand elle est morte, je me suis senti comme un boxeur qui vient d'encaisser un direct. Mais l'arbitre a fini de compter maintenant. Je suis un homme, après tout. J'aime les femmes. Je ne veux pas me remarier, il n'en est pas question. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai dû me montrer discret, mais j'ai pu me donner du bon temps. La pauvre a dit non. C'est une femme qui a de la tenue. Le genre de femme que les hommes ont envie d'épouser, pas seulement de mettre dans leur lit. À la première occasion, vous verrez qu'elle se remariera, qu'elle sera heureuse et son mari tout autant. Mais le vieux Jeff voyait toujours en elle la femme de Frank et faisait en sorte qu'elle ne s'évade pas de ce rôle. Il ne s'en rend pas compte, mais pour nous, c'était la prison. Je me suis soustrait en douce il y a longtemps déjà.
Adi l'a fait cet été. Il en a été secoué. Son univers se brisait. Résultat, Ruby Kin. Il ne put s'empêcher de fredonner. Mais elle est désormais dans la tombe et, oh, ma vie en est changée. Venez, Clithering, conclut-il. Ça s'arrose.
Pas étonnant, songea Sir Henry, que Mark Gaskell soit l'objet des soupçons de la police.